Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Le journal avec Clara Gabillet. Bonjour Clara.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. L'optimisme et l'espoir des autorités en Gironde. La situation concernant l'incendie commence nettement à s'améliorer. Nous serons en direct auprès des pompiers et avec des évacués, plus de la moitié désormais autorisés à rentrer chez eux. Un désarmement complet du Hamas en échange du retrait des troupes israéliennes de la bande de Gaza. Accord annoncé cette nuit par Donald Trump et puis la FIFA n'en démord pas. La Fédération internationale de football continue son projet d'ouverture aux investisseurs privés, malgré les critiques, en particulier celles de l'UEFA.
De l'espoir en Gironde où le feu est toujours contenu par les pompiers ce matin.
La situation est stable selon les dernières informations de la préfecture ce matin. Depuis plusieurs jours maintenant, le feu est stabilisé, ce qui rend le discours des autorités bien plus positif, notamment celui de la préfète de Gironde, Sophie Broca.
C'est la première journée un peu optimiste parce qu'on a l'impression qu'on est en train de revenir sur le chemin d'une vie normale et que les choses commencent à s'améliorer nettement. On reste vigilant, le feu se réduit petit à petit et combattu. Après, il faudra beaucoup arroser, beaucoup gratter pour que ça. On n'ait pas de redépart. On aura forcément des redéparts. On n'est pas au bout, mais on sent qu'on est sur un bon chemin, un chemin positif.
Du travail, il y en a encore car le feu n'est pas fixé et environ 3300 pompiers continuent de se démener pour en venir à bout. Inès Zegloul, vous êtes l'une des envoyées spéciales d'RMC en Gironde en direct ce matin de Lèche-Cap-Ferret au poste de commandement des pompiers qui reste mobilisé malgré une nuit calme, Inès.
Oui, je viens d'assister au premier briefing de la journée, une sorte de réunion de chassés croisés entre ceux qui sont restés sur le front des flammes toute la nuit et ceux qui grimpent en ce moment même dans leur camion en direction des points chauds, des quelques foyers actifs qui subsistent. On avance bien, c'est ce que me confie ce matin un soldat du feu, rassurant malgré ses yeux cernés par la fatigue, mais prudence, dit-il.
Pour rester vigilant, là, effectivement, la météo et les températures peut-être qui pourraient nous aider, avec une humidité qui pourrait nous aider. Malgré tout, le feu, il n'est pas du tout encore fixé et on reste encore sur nos gardes.
Et tous inspectent ici la topographie du secteur. Ces cartes évolutives marquées de points rouges symbolisant encore les quelques foyers persistants dans les secteurs notamment du Cap Ferré et de la Cano. L'espoir ici, ce sont ces quelques gouttes de pluie tombées du ciel ce matin. Mais ici, on le martèle, la mobilisation reste totale.
Inès Zegloul en direct de Lèche-Cap-Ferret pour RMC et autre preuve de l'amélioration sur place. Un peu plus de la moitié des évacués sont désormais de retour chez eux. 84 000 personnes autorisées à regagner leur domicile à leur tour hier. Les habitants de 9 communes, dont Saint-Jean-d'Illac, très soulagés de retrouver leur maison. Le reportage de Pierre Bourgès.
À peine de retour chez lui, François attrape la cage installée à l'arrière de sa voiture.
T'es chez toi là, allez.
Il libère son chat avec qui il a évacué le week-end dernier.
Ça fait du bien. Là, on n'en pouvait plus. Là. Dès qu'on a vu, on s'est dit on part. On était dans la famille, hein, mais quand c'est pas des prévus, c'est beaucoup plus long le temps.
Immense soulagement également chez Sophie. Après 5 jours hors de chez elle, et la pression retombe.
Puis là, je repleure parce que c'est la joie de revenir en fait. Là, je vais être contente de faire du ménage pendant une semaine. J'en ai rien à faire. Je vais tout remettre à plat et puis voilà. Et puis on va. On va essayer de reprendre notre petit train-train.
C'était traumatisant, admet celle qui a eu peur de perdre sa maison dans les flammes. À Saint-Jean-d'Illac, la vie tente de reprendre. Elisabeth sort de chez le marchand de journaux. Elle a encore du mal à y croire.
Ça fait du bien de rentrer, mais on sait qu'on est sous la sellette. On sait que ça peut redémarrer à tout moment. Quoi.
Face à un feu toujours actif, elle a peur d'être à nouveau évacuée.
J'ai dormi dans la voiture avec mon chat. Les hôtels n'acceptaient pas les animaux. C'est horrible. Mentalement, c'est hyper dur. Quoi.
Dans le coffre de sa voiture, un sac avec des affaires au cas où il faudrait encore évacuer.
Le reportage de notre correspondant dans la région, Pierre Bourgès. Et en plus de ces évacuations, l'autoroute A63 a été rouverte entre Bordeaux et le Pays Basque. Et en ce week-end de chassé-croisé, Bison Futé appelle à éviter de se rendre en Gironde ou de traverser le département. C'est noir dans le sens des départs dans le sud-ouest, rouge partout ailleurs aujourd'hui. Ce sera noir sur toute la France demain. Et puis, bonne nouvelle dans les Landes, le feu est maîtrisé après avoir brûlé 3600 hectares en une semaine. Tous les quartiers de Biscarrosse vont rouvrir à la circulation.
On sera juste après le journal avec le maire de Millau, l'une de ces communes où la vie reprend enfin, où les habitants sont rentrés chez eux. Et puis le 32-16, bien sûr, reste ouvert. Vous le savez, toute la matinée standard ouvert jusqu'à midi sur RMC pour tous vos témoignages. Il est 7h05 et l'information de la nuit, c'est aussi cet accord trouvé sur le désarmement du Hamas.
C'est Donald Trump qui l'a annoncé. Le mouvement islamiste palestinien l'a confirmé il y a quelques heures. Cet accord s'inscrit dans la deuxième phase du cessez-le-feu entre le Hamas et Israël, qui doit donc retirer ses troupes de la bande de Gaza en échange donc du désarmement du Hamas, Caroline Renaud.
Oui, selon l'accord, seul le Comité national pour l'administration de Gaza pourra détenir, stocker ou contrôler des armes dans l'enclave palestinienne. Toutes celles du Hamas devront donc être remises à cette entité créée par le Conseil de paix de Donald Trump. De son côté, Israël n'interviendra pas dans la question du désarmement. Ses forces devraient se retirer du territoire à mesure que le Hamas rendra ses fusils et ses lance-roquettes. Prochaine étape, discuter des modalités de mise en œuvre et convenir d'un calendrier. Étape qui prendra une quinzaine de jours, précise l'équipe de négociation du Hamas. Puis une force internationale de stabilisation se chargera d'encadrer la transition politique. Elle collaborera directement avec une nouvelle force de police palestinienne pour garantir la sécurité à Gaza.
Les précisions en direct de Caroline Renaud pour RMC. L'enclave espagnole de Ceuta n'avait pas connu un tel afflux de personnes migrantes depuis 5 ans. Plus de 1500 arrivées illégales ces derniers jours depuis le Maroc. Le président de la région parle d'une urgence humanitaire sociale absolue. 9 personnes sont mortes hier en tentant d'arriver par la nage. Justin Adel, ils étaient encore des milliers hier soir rassemblés près de la frontière.
Ils arrivent par centaines, beaucoup de jeunes hommes, femmes et enfants, en grande partie à la nage, pour contourner la frontière, ces clôtures de plusieurs mètres, surmontées de barbelés et délimitant l'enclave espagnole.
J'ai mis 2 heures avec mon petit frère.
Certains utilisent des combinaisons de plongée, des palmes et même de simples bouées de plage pour effectuer cette traversée. Les policiers espagnols sont dépassés.
C'était dur. Les policiers ont essayé de nous arrêter. Mais grâce à notre détermination, nous avons pu passer.
Sur place, les camps d'accueil sont pleins à craquer. Les migrants dorment à même le sol, parfois directement sur les routes. C'est une simple rumeur prétendant l'ouverture d'un poste frontière qui serait à l'origine de cet afflux de personnes en provenance du Maroc. Cet immigré vit déjà sur place.
On leur dit qu'en Espagne, il y a un futur du travail. En vrai, il y en a, mais quand ils arrivent, ils font face à la dure réalité. Ils n'ont rien, ils sont traités comme s'ils n'étaient personne.
D'ores et déjà, les autorités espagnoles et marocaines l'assurent. Les personnes entrées illégalement sur le territoire seront, dès que possible, raccompagnées à la frontière.
Et l'armée espagnole a été déployée sur place. Dans les Hauts-de-Seine, en région parisienne, le casque est désormais obligatoire si vous circulez en trottinette électrique. Le département emboîte le pas à la Seine-et-Marne et à plusieurs villes en France qui prennent cet arrêté face aux accidents qui sont parfois mortels. Casque et équipement réfléchissant obligatoire sous peine d'amende. Mais à Levallois-Perret, le message ne semble pas être passé. Le reportage d'Amine Lafchin.
Dans les ruelles étriquées du centre de Levallois-Perret, au milieu des scooters, des vélos et des voitures, Prégage sur sa trottinette électrique circule sans casque. Mais ce qu'il ignore, c'est que désormais...
C'est 1500 euros d'amende.
Ah oui, quand même, ça fait cher. Je suis sorti à côté, mais au final, en 5 minutes, il peut y avoir beaucoup de choses.
Ça vous est déjà arrivé, vous de...
C'est vraiment quand je suis au niveau des portillons et tout... La peur qu'une voiture arrive brusquement, qu'elle sorte et que je puisse pas la voir ou quoi que ce soit. J'anticipe mal, quoi.
Donc peut-être qu'avec un casque...
Ça serait mieux, ouais.
Des frayeurs et des comportements dangereux que Nathalie, habituée à rouler à vélo, voit régulièrement.
À trottinette, ils se font ce qu'on appelle du surf urbain. C'est-à-dire qu'ils sont à une petite vitesse, mais ils ne s'arrêtent jamais.
Les obliger à s'équiper pour elle, c'est donc du bon sens. Mais pour Augustin, au contraire, croisé à vive allure sur sa trottinette électrique.
Je trouve ça inutile et effectivement, je n'achèterais pas le nécessaire. Si les gens voulaient se protéger, ce serait pour leur sécurité. Qui est l'amende, qui n'est pas l'amende. Chacun est libre de sa sécurité, je pense.
La préfecture assure ne pas encore sanctionner. Le temps est à la pédagogie, confie-t-elle. Il faut informer les usagers, mais aussi leur laisser le temps de s'équiper.
Et on parlait il y a quelques instants du monde sur la route ce week-end. Eh bien, il y a aussi une grève SNCF. 67 trains supprimés aujourd'hui et pour aussi d'autres trains dans le week-end en direction de la Normandie.
Ouais, mouvement de grève inopiné annoncé au tout dernier moment sur le pire week-end de chassé-croisé de l'été. Ça vous fait réagir, vous composez le 32-16 et on entendait ce reportage sur le casque obligatoire en trottinette. C'est un sujet aussi qui depuis ce matin vous fait beaucoup réagir au 32-16. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce qu'il faut imposer le port du casque? Est-ce que vous-même vous le mettez si vous êtes en trottinette. On vous attend au 32-16 et sur le WhatsApp RMC 06 12 424 424. La FIFA, à présent, qui persiste et signe malgré les critiques, elle affirme continuer son plan d'ouverture aux investisseurs privés.
Un projet qui n'en finit plus de faire réagir. Projet de vente des parts de la Fédération internationale de football à des investisseurs privés. L'UEFA lance le bras de fer, Pierre Thévenet, et menace de boycotter les compétitions organisées par la FIFA.
Oui, si l'initiative du patron du football mondial va au bout, les pays membres de l'UEFA ne participeront pas aux compétitions organisées par la FIFA, annonce faite dans un communiqué hier. Ces pays, dont la France, rejettent sans équivoque cette proposition de privatisation des grandes compétitions de football mondial. Un projet qui doit rapporter gros à la FIFA. Gianni Infantino, son président, cherche donc l'adhésion des fédérations. Il ne la trouvera pas du côté de l'Europe qui refuse ce modèle. La Coupe du Monde appartient au football, il en sera toujours ainsi, peut-on lire dans la déclaration. Et tant que l'Europe aura voix, elle ne sera jamais à vendre. L'UEFA ne sera pas seule dans ce combat. La CONCACAF, qui regroupe les fédérations de football d'Amérique du Nord, Centrale et des Caraïbes, a également rejeté en bloc la proposition.
Les précisions de Pierre Thévenet.